Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, pardon. Et on va évoquer avec elle, comme tous les vendredis, les titres à paraître sur cette nouvelle édition que vous pouvez retrouver dans tous les bons kiosques. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno et bonjour à toutes et à tous.
Et on commence donc un peu traditionnellement, on va dire, avec le dossier de La Marseillaise qui est cette semaine sur les violences faites aux femmes avec plusieurs manifestations organisées ce samedi 25 novembre.
Oui, alors le 25 novembre, c'est la journée nationale des, internationale même contre les violences faites aux femmes, donc l'occasion pour nous de revenir sur ce sujet brûlant et toujours d'une grande actualité, avec notamment les dates de tous les rassemblements et les manifestations qui ont lieu dans l'Hérault et dans le Gard aussi. Oui. On peut noter qu'à Montpellier, la marche partira donc ce samedi, 25 novembre du Pérou à 14h30. Et puis à Béziers, il y a les Rosies. Alors les Rosies, on les connaît, elles ont manifesté dans tous les mouvements sociaux. Oui. C'est aussi un mouvement très féministe et elles appellent à un rassemblement devant la statue Paul Riquet à 10h30 samedi matin. Et dans ce dossier, nous revenons notamment en détail sur la création de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes, intrafamiliales et sexistes.
À lire aussi dans cette nouvelle édition de La Marseillaise le rapport annuel du Secours catholique sur la pauvreté qui, dans l'Hérault, touche très majoritairement les femmes.
Oui, en fait, on peut faire un lien aussi entre le dossier contre les violences faites aux femmes et puis une des violences, c'est la violence économique et sociale, puisque dans cet autre sujet, on va s'intéresser particulièrement aux femmes. C'est ce qu'a fait le Secours catholique qui a produit il y a quelques jours son rapport annuel sur la pauvreté. Oui. Donc il faut savoir qu'il publie chaque année ce rapport. Et puis dans l'Hérault, l'association a fait un zoom. Il faut savoir que dans l'Hérault, le Secours catholique accompagne 5000 ménages grâce à un réseau de 800 bénévoles. Et il y a majoritairement des femmes, 70% des femmes qui sont accompagnées.
D'accord. Les vignerons sont en colère et ils vont manifester ce samedi à Narbonne et tous les vignerons viendront de tout le sud de la France, visiblement.
Oui, en fait, c'est une manifestation qui a une dimension interrégionale, puisque les vignerons sont en difficulté pour plusieurs raisons, c'est ce que nous expliquons dans cet article. En fait, c'est un entretien que nous a accordé Frédéric Rouanet. Alors lui, c'est le président du syndicat des vignerons de l'Aude, mais c'est aussi le porte-parole de cette colère vigneronne. Et Narbonne, c'est un grand lieu de la colère viticole et vigneronne, avec les grandes manifestations et les grands mouvements de 1907. Et là, ce samedi, ça sera à 14h30. Cet article nous permet de revenir sur les raisons de cette colère. Il n'y aura pas seulement que les vignerons, c'est aussi un peu la ruralité qui va se manifester. Mais il y a notamment de nombreux élus aussi qui seront présents.
Et pour finir, côté culture, c'est le coup de cœur de La Marseillaise avec l'exposition de Thomas Vuille, plus connu sous le nom de Monsieur Chat.
Oui, alors c'est le musée d'art urbain et contemporain de Montpellier. C'est une structure culturelle qui s'est ouverte il y a à peu près un an, qui s'appelle Parcelle 473, qu'on trouve 425 avenue des Frères Buller à Montpellier. Oui. Je donne l'adresse parce que c'est un lieu qui mérite d'être découvert. Et là, Thomas Vuille, qu'on connaît en fait à travers le nom de Monsieur Chat, c'est ces grands chats avec des grandes dents blanches et tout jaune. Que l'on voit un peu partout, c'est de l'art urbain. Et cette exposition, elle est aussi tournée, elle se veut à hauteur d'enfant, avec beaucoup d'ateliers. Et voilà, c'est notre coup de cœur de la semaine.
Allez, à la une de La Marseillaise, chers auditeurs, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Verna.
Politique, sociale, société, économie, France. France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence donc, comme on le disait en introduction, Françoise, avec le dossier de la Marseillaise sur les violences faites aux femmes, avec plusieurs manifestations organisées ce samedi 25 novembre.
Oui, alors le 25 novembre, c'est la journée, on va dire, entre gros guillemets, traditionnelle de lutte contre les violences faites aux femmes. Mmh. Elles sont toujours extrêmement prégnantes, hein, en France notamment. Oui. Alors, il y a plusieurs manifestations et rassemblements. On peut citer le rassemblement, la manifestation à Montpellier, à l'appel d'un collectif. Hein, la marche donc partira du Pérou ce samedi 25, donc à 14h30. Oui. Et puis, à Béziers, on a un autre collectif qui s'appelle les Rosies, qui manifeste beaucoup dans les mouvements sociaux, qui a évidemment, ce sont 100% des femmes, et qui appellent à se rassembler devant la statue Paul Riquet à 10h30 au samedi. Et dans ce dossier, assez fourni dans la Marseillaise, hein, puisque nous avons un témoignage très fort, notamment, j'invite vraiment les auditrices et auditeurs à se pencher sur ce dossier, parce qu'un témoignage rare d'une femme qui nous explique l'engrenage de la violence conjugale. Hein. Elle s'en est sortie, en réussissant à partir, oui. Mais aussi en écrivant et en couchant sur le papier ce témoignage. Elle nous a donc livré ce témoignage dans les colonnes de la Marseillaise. Mmh. Nous revenons aussi très en détail sur la création. Alors c'est un observatoire qui est assez unique en France, hein, et il s'est créé donc dans l'Hérault, et il s'appelle l'Observatoire départemental donc des violences faites aux femmes, oui, intrafamiliales et sexistes. Mmh. Alors c'est vrai que le nom est un peu long, mais c'est nécessaire, parce que comme nous rappelle Pauline Chevellier, qui est la coordinatrice dans l'Hérault de cet observatoire, les violences conjugales et intrafamiliales et sexistes, c'est le paroxysme en fait des inégalités entre les hommes et les femmes qui sont persistantes. Mmh. Et l'originalité de cet observatoire, c'est que c'est une coopération entre des professionnels de terrain, le milieu associatif notamment, les personnes victimes, hein, et les chercheurs, puisque l'université Paul Valéry fait partie de l'observatoire. Hein.
D'accord.
On revient bien évidemment dans ce dossier sur les chiffres qui ont été fournis il y a quelques jours aussi par le ministère de l'Intérieur sur le bilan des agressions et des violences conjugales qui sont le résultat des femmes qui ont porté plainte.
Hein, oui, donc c'est la partie visible de l'iceberg, quoi.
C'est exactement ce qu'on écrit dans l'éditorial, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais c'est quand même, elles sont en hausse, ce recensement montre que les déclarations sont largement en hausse. Mmh. Au niveau national, c'est plus 15% de déclarations, parce que c'est lié en partie à la libération de la parole.
Hein. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Oui.
Voilà, mais il faut savoir aussi qu'il y a une victime encore sur quatre, ça c'est une étude, une autre étude qui le montre, qui signale ses actes aux forces de l'ordre. Mmh. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour permettre aux personnes, aux femmes de faire la démarche de porter plainte, de pas simplement limiter malheureusement la violence à quelque chose de simplement physique. Il y a aussi les menaces, les violences psychologiques.
Hein. Le chantage.
Et puis, dans ce dossier, on rappelle que il faut vraiment que les pouvoirs publics mettent les moyens. Or, la Fondation des femmes, qui a sorti aussi un rapport, il a un titre très explicite, hein. Où est l'argent contre les violences faites aux femmes?
Alors c'était une promesse de campagne, je crois, en plus.
Alors c'était même cause nationale. Hein. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit que la lutte contre les violences faites aux femmes devait être cause nationale. Il y a eu un Grenelle contre les violences en 2019, mais comme nous le dit la Fondation des femmes, ça a vraiment accouché d'une souris budgétaire. Mmh. Alors l'association dit que, en gros, aujourd'hui, il faudrait consacrer plus de 2 milliards à cette lutte, hein, aux violences conjugales, sexistes et sexuelles, en France. Hein. Alors, ramené au budget de la nation, c'est 0,5%. Mmh. Et quand on met en regard l'argent mobilisé jusqu'à présent, on arrive à 184,4 millions d'euros. Et en face, d'accord, on a 2,6 milliards qui seraient nécessaires. Mmh. Donc, il y a vraiment tout un travail aussi de moyens, parce qu'il faut savoir que les associations, elles sont pas en bout de course, mais elles ont énormément de difficultés pour mener ces missions, mmh, puisque la parole se libère, les femmes, et c'est bien heureux, se manifestent de plus en plus, mais c'est tout le volet accompagnement, avec énormément de mesures et de décisions à mettre en œuvre qui ne sont pas encore au niveau de cet enjeu extrêmement important. Mmh. Puisque la Fondation des femmes évalue à peu près à 3 millions le nombre de femmes qui sont, toutes violences confondues, concernées par ce fléau.
Mmh. Oui, et puis on pourrait rajouter à ça aussi la formation des policiers, quoi, parce que quand certaines femmes font la démarche de se rendre dans un commissariat, elles ne sont toujours pas, des fois, pas bien reçues, donc tout va de pair.
Oui, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais il faut savoir aussi, je ne sais plus quel média, il faudrait que qui a réussi à obtenir de façon, en insistant très très lourdement auprès des, pas lourdement, en faisant son travail de recueil des sources, pour avoir le nombre de policiers et gendarmes qui sont auteurs de ces faits de violence. Mmh. Il y en a quand même 800.
Eh oui.
Bon, c'est pas à l'échelle, mais c'est à l'image de la société, oui, dans toutes les professions et dans toutes les classes. Mmh. Il ne s'agit pas de stigmatiser plus ou moins un métier, mais bon, c'est toutes les couches de la société qui sont concernées, et donc on a un dossier assez conséquent, et certes, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le marronnier. Mmh. Le problème, c'est que c'est un problème, c'est un sujet majeur. Qui devrait être abordé tous les jours.
Mmh. Allez Françoise, on reste toujours dans les inégalités hommes-femmes, malheureusement, avec le rapport annuel du Secours catholique sur la pauvreté qui, dans l'Hérault, touche très majoritairement les femmes.
Oui, alors premier constat déjà qui a été dressé par le Secours catholique, donc qui publie chaque année son rapport annuel sur la pauvreté, c'est que la pauvreté s'aggrave. Mmh. Bien évidemment, il y a l'augmentation générale des prix, ce qu'on appelle l'inflation, donc, qui touche particulièrement les personnes les plus pauvres et les plus précaires. Mmh. C'est presque une lapalissade. Hein. Oui. Mais quand on a une explosion des prix de l'énergie, et surtout une explosion des prix de l'alimentation et l'impossibilité de se loger correctement, on a quand même là la nourriture, se loger et se chauffer.
C'est le bon cocktail.
voilà, qui sont des choses, qui sont des dépenses incompressibles, mmh, mais qui sont compressibles. Et dans la pauvreté, il y a un minimum de vie médian qui a été donc élaboré par le Secours catholique, pas élaboré, mais il a été donc calculé par le Secours catholique. Alors c'est pas beaucoup, il c'est 760 euros revenu médian d'une personne pauvre, hein, mmh, bien en dessous du seuil de pauvreté. On est aujourd'hui, en 2022, à 705 euros. Donc il y a une perte énorme, mmh, c'est une perte énorme, hein, en pourcentage. Hein. Et ce qui est très intéressant aussi dans cette étude du Secours catholique, c'est que ils ont fait évidemment un zoom sur le département de l'Hérault.
Oui.
Alors il faut savoir que c'est une association qui accompagne 5000 ménages. Donc
c'est
on
énorme.
Mesure un ménage, c'est pas une personne, hein, mmh, c'est peut-être une personne avec plusieurs enfants, ça peut être un couple, mais en l'occurrence dans l'Hérault, ce sont 70% de femmes, mmh, qui sont avec des enfants et 34% de mères isolées.
D'accord.
Ils pointent aussi le manque de logement. Et ils ont ce constat, c'est que les premières victimes de la pauvreté, ce sont les femmes. Pourquoi on revient toujours aux inégalités? Ce sont des personnes qui sont, quand elles travaillent, elles sont à temps partiel,
oui,
elles sont moins rémunérées. Donc on a une difficulté là qui énorme. Il y a une distinction aussi intéressante, c'est que par exemple en milieu rural où intervient aussi le Secours catholique,
oui,
là on a plutôt des profils, des personnes isolées, mais des personnes âgées, des femmes isolées, avec des petites retraites, et qui souffrent énormément de la solitude.
D'accord.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que une association comme le Secours catholique, comme le Secours populaire, elles sont aussi animées par des valeurs humanistes. C'est-à-dire que ce qu'ils nous disent, c'est qu'eux, ils veulent être les révélateurs de la dignité, et par leurs actions, rendre la dignité aux personnes que l'on rencontre. Et c'est à la fois un cri d'alarme, mais c'est aussi un cri mais un constat qu'il faut rendre la dignité à ces personnes et les considérer, et donc les aider aussi à sortir de cette spirale infernale de la pauvreté, qui est aussi le résultat, il faut le dire, de politiques publiques, avec certes des mesures par à coup qui peuvent une prime par-ci.
Oui, mais c'est des pansements.
Voilà, c'est des pansements. Et surtout, ce n'est pas durable. Les personnes ne peuvent pas se projeter. Donc on a tenu à aussi faire cet éclairage sur ce rapport de Secours catholique, qui est complètement à disposition, dans nos colonnes, on en rencontre, mais à disposition complète si les auditrices et les auditeurs veulent s'y pencher. C'est d'un fort enseignement sur aussi l'état de notre société.
Allez Françoise, on passe aux vignerons qui vont se réunir ce samedi à Narbonne parce qu'ils sont en colère et ils viendront de tout le sud de la France.
Oui, alors en fait, cette manifestation qui a lieu samedi à Narbonne, à partir de 14h30, Narbonne, bon, c'est un grand, c'est un territoire où la colère vigneronne a toujours été très forte. Il y a une borne historique qui est 1907, pareil, j'invite aussi ceux qui nous écoutent à aller se renseigner sur ce qui s'est passé à Narbonne en 1907, une grande colère vigneronne. Donc c'est pas pour rien symboliquement que ça se passe à Narbonne, mais ça va concerner toute la profession du sud.
Oui.
C'est interrégional, aussi bien la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur que la région Occitanie. Alors pourquoi ils se mobilisent? Alors ce que nous dit, puisque nous avons un entretien avec Frédéric Rouanet, qui est le président du syndicat des vignerons de l'Aude et qui est le porte-parole de cette colère vigneronne, on va dire, qui nous dit, c'est qu'aujourd'hui, le prix du vin ne permet plus aux exploitations de vivre dignement.
Oui.
Et qu'il y a un risque de disparition pour certaines exploitations. Alors, il y a eu plusieurs épisodes. Il y a eu, évidemment, les aléas climatiques avec un gel très important en 2021. Et puis, surtout, il y a la concurrence, toujours, c'est un peu historique aussi, la concurrence avec notamment les vins espagnols. Il y avait déjà eu une grosse mobilisation et des actions coup de poing sur les importations de vins espagnols.
Mais je crois que cette année, Françoise, on est redevenu le premier pays producteur après l'Italie, visiblement.
Oui, alors c'est un paradoxe parce que en fait, le secteur viticole, on peut dire qu'ils peuvent se porter très bien pour certains producteurs. Et puis, on va dire que ce n'est pas une profession qui est uniforme. Il n'y a pas que des grands producteurs, il y a aussi des petits viticulteurs, notamment dans le Gard, dans l'Hérault, qui tirent la langue. Et puis, il y a la pression de ce qu'on appelle la grande distribution.
Et oui.
On connaît tous les foires au vin, parce qu'on veut faire des bonnes affaires, entre guillemets, mais le prix à payer pour celui qui fabrique le vin, si je puis dire, il est de plus en plus élevé. Et puis eux aussi, comme tous les travailleurs, subissent aussi l'augmentation d'énormément de matières premières qui leur servent à faire tourner leur exploitation. Je parlais du gel. Il y a eu la période du Covid aussi.
Oui. Il y a les campagnes aussi anti-alcool aussi du gouvernement qui poussent les gens à peut-être moins consommer.
Les campagnes anti-alcool, le reproche qui est fait, on ne peut pas on peut pas reprocher les campagnes de santé parce que le vin c'est de l'alcool. Oui. Mais ce que disent les viticulteurs, c'est que c'est souvent le vin qui est pointé du doigt. Mmh. Bon, il y a plusieurs raisons. Il y a toute une, si je puis dire, employer un terme un peu marseillais, toute une bouillabaisse de raisons qui alimente une colère. Alors, est-ce que cette manifestation va être bon enfant, entre guillemets, parce qu'on peut exprimer sa colère de façon pacifique, ou est-ce qu'elle peut déborder? On le saura samedi. Mmh. Il y a aussi une expression du malaise de la ruralité.
Oui.
Et il y aura beaucoup d'élus. Hein, c'est un peu transpartisan aussi. Il y a des élus de gauche qui seront à leur côté. On a reçu des communiqués, hein, notamment des élus communistes de la région Occitanie.
Oui.
Qui disent on va venir manifester aux côtés des vignerons parce que tout le monde, ils doivent pouvoir vivre dignement de leur travail. Et donc, j'invite donc à lire l'interview de Frédéric Rouanet qui est paru dans la Marseillaise là, et pendant toute la semaine. Et puis, samedi, évidemment, on rendra compte de comment s'est passée cette manifestation qui s'annonce quand même assez historique.
Oui. Allez, chère Françoise, on finit avec un petit peu de culture. Et le coup de cœur de la Marseillaise, c'est à l'exposition de Thomas Vuil, plus connu sous le nom de Monsieur Chat.
Oui, alors ça se passe au Musée d'art urbain et contemporain de Montpellier. Et donc, il va fêter sa première année d'ouverture avec une exposition temporaire, mais qu'on peut voir jusqu'en mars. Hein, elle a ouvert ses portes là. Donc, elle dure un moment. Elle a ouvert ses portes aujourd'hui. Et là, à partir d'aujourd'hui, vendredi 24, c'est autour de l'artiste Thomas Vuil, qui un street artiste et qui son alias est Monsieur Chat. Mmh. Alors c'est un félin qui est mondialement connu, hein. Il est tout jeune, des grands yeux, il fait un grand sourire avec des grandes dents peintes en blanc, et donc il vient exposer dans ce lieu qui est un musée d'art urbain et contemporain. Mmh. Qui se nomme Parcelle 473, qu'on peut dénicher au 425 avenue des Frères Buller à Montpellier. Il faut vraiment le découvrir, faire vivre ce lieu. Et il y a une quarantaine d'œuvres originales qui vont être présentées à l'occasion de cette immersion dans carrément l'atelier de Monsieur Chat.
D'accord.
Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on y va comme on veut, hein, mais on y va aussi en famille avec les enfants, les petits-enfants, les neveux, les nièces, les copains, les copines, parce que il y a tout un parcours qui est dédié. Enfin, c'est même pas tout un parcours. Elle a été pensée à hauteur d'enfant.
Mmh.
Un peu quand on va au centre, pour ceux qui ont la chance d'aller au centre Pompidou, il y a des œuvres qui sont à hauteur d'enfant avec des explications spécifiques dans le langage accessible aux enfants.
Oui, puis c'est la thématique, Françoise, de l'année prochaine pour la ville de Montpellier, une ville à hauteur d'enfant.
Exactement, c'est une ville amie des enfants, ça veut dire qu'elle rentre dans des critères très précis. Oui, c'est très important parce que les enfants, c'est des citoyens, c'est des petits citoyens déjà, ils ont leurs droits, et c'est des citoyens adultes en devenir. Et donc l'art, c'est vraiment un médium incroyable pour les faire grandir aussi bien leur imagination que leur intelligence.
Mmh, enfin, bref,
voilà. Donc c'est pour ça que cette exposition est intéressante à plusieurs titres. Hein, d'abord pour découvrir des œuvres originales de cet artiste, et puis pour cette démarche à hauteur d'enfant. Et quand c'est à hauteur d'enfant, c'est à hauteur de tous.
Et oui.
Voilà.
Absolument. En tout cas, chère Françoise, tous ces titres sont à lire et bien plus encore, bien sûr.
Oui, bien sûr. On a notre actualité culturelle encore enrichie avec Zébuline Lebdop,
oui.
Toute une semaine avec 4 pages. Là, avec un zoom, si je puis me permettre, sur l'atelier géant de Claude Viala au Carré d'Art à Nîmes.
Oui.
Des conseils de lecture. On revient aussi en sport. On a l'arrivée de Bernard Laporte
à Montpellier.
Voilà. Donc, on a beaucoup d'autres sujets. À Nîmes, un coup de chapeau aussi au Prolet, qui est ce bar mythique fondé en 1908, qui s'agrandit énormément et qui inaugure son nouveau lieu en doublant son espace et qui va dédier ce nouvel espace à la culture. Mmh. Voilà, donc il y a beaucoup d'idées aussi de sorties dans ce numéro et voilà.
Et puis n'oublions pas le www.lamarseillaise.fr, chère Françoise.
Exactement.
On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour évoquer les titres à paraître sur la prochaine édition. Merci beaucoup, chère Françoise.
Merci.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.